Vous écoutez France Culture.
Merci Caroline, merci Hervé, bonjour à tous. 13h30, vous écoutez France Culture et c'est l'heure des pieds sur terre. Aujourd'hui, ils désobéissent, deuxième partie en milieu psychiatrique.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas, attention, attention.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Ne vous affolez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie par les voix.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
En fait, la désobéissance dans notre métier, c'est toujours de dire que ce qu'on fait, ça va pas de soi. Ça va pas de soi de mettre quelqu'un en chambre d'isolement. Ça va pas de soi d'augmenter les traitements et d'arriver à des doses incroyables. Ça va pas de soi de fermer les pavillons à clé. Ça va pas de soi, quand un patient est en hospitalisation d'office, de pas demander des congés d'essai assez rapidement. Tout ça, ça va pas de soi. Et c'est ça la désobéissance en psychiatrie, c'est lutter contre le « ça va de soi ».
Contre le « ça va de soi » et désobéissent à leur façon en refusant de respecter un règlement, en trafiquant un peu les papiers et en adaptant la vérité à leur conception de ce que devrait être leur métier, des soins qu'ils devraient donner et de la perception des personnes qu'ils accueillent. Depuis qu'est instaurée officiellement une concurrence entre le public et le privé pour les missions de service public, leur travail a changé de nature et leurs objectifs ont été considérablement modifiés et ils ne sont pas d'accord. Pire, depuis le fameux discours sécuritaire du président de la République du 2 décembre 2008 à l'hôpital Erasme d'Antony, un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et à leurs modalités de prise en charge a été rédigé et a soulevé un tollé dans la profession. Ce projet fait du soin sans consentement le modèle du soin psychique, autorisant notamment une sorte de garde à vue psychiatrique de 72 heures durant laquelle tout action de traitement contraint serait autorisée. Un collectif des 39 contre la nuit sécuritaire a été créé, vous en avez peut-être entendu parler, pour protester, mais sur le terrain, tous les jours, toutes les heures du jour et de la nuit, signer des pétitions ne suffit pas, il faut résister et parfois désobéir ou avoir, comme on dit, le courage de ses opinions. C'est leur cas et ils racontent leur quotidien qui sera peut-être un jour le nôtre ou le vôtre, je ne vous le souhaite pas, en tout cas jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
Je suis Mathieu et je suis psychiatre de secteur. C'est-à-dire que je suis dans la psychiatrie publique, je travaille donc dans un hôpital et sur des centres médico-psychologiques qui sont afférents à ce secteur. La première fois que j'ai désobéi, au fond, c'était pendant mes études, quand j'étais interne. C'est pour la question du diagnostic. Vous savez, souvent quand on voit des patients à l'hôpital, il faut mettre un code de diagnostic au patient pour sa pathologie. Ça peut être F20, schizophrénie. Le problème de ces codes diagnostiques, donc, c'est que ça réduit la personne qu'on voit à un code, à un code barre, quoi. Bon. Et du coup, moi j'avais trouvé une petite astuce. Il y a un code, c'est F99. Et F99, c'est autre. Alors vous savez quoi, c'est toujours vrai. Donc je mettais toujours dans les codes diagnostiques F99, autre. Mais bon, les collègues me disaient, non mais il faut être sérieux, c'est important pour les statistiques, etc. Mais je mettais F99. Donc c'était la première petit moment de résistance. Et la deuxième chose là, c'est une petite désobéissance qu'on peut faire au quotidien. Quand on fait des certificats pour l'hospitalisation d'office ou pour l'hospitalisation à la demande d'un tiers, on doit envoyer les certificats à l'Agence régionale de santé pour les hospitalisations sans consentement. Et depuis 2008, décembre 2008, depuis le discours de Sarkozy, où en fait il a amalgamé maladie mentale et dangerosité, les préfets sont beaucoup plus stricts sur les permissions accordées aux patients qui sont en hospitalisation d'office, par exemple. Bon. Du coup, quand on a des patients en hospitalisation d'office, si dans les certificats on met un certain nombre de mots comme le patient présente un état de dangerosité ou le patient a des conduites hétéro-agressives ou des choses comme ça, le préfet, lisant ça, va être beaucoup plus précautionneux sur le fait d'accorder ou non des sorties d'essai dans le futur. Donc quand on a un patient qui arrive, on demande au préfet une permission. Donc si dans votre certificat initial, vous avez mis un certain nombre de mots comme quoi le patient c'est un schizophrène dangereux, comme on dit à la télé et dans les médias, tout de suite le préfet il va dire « Oulala, attention, celui-là je ne vais pas le laisser sortir aussi vite que ça ». Donc dans les certificats, moi je ne mets jamais ces mots-là, et puis j'atténue toujours un peu. C'est-à-dire par exemple, plutôt que de dire « le patient présente des états de violence auprès des autres ou présente des menaces », j'ai dit « le patient présente des propos légèrement outranciers » ou des choses comme ça, vous voyez. Alors, c'est pas une désobéissance réelle, c'est-à-dire que c'est juste une petite subversion qui permet de préparer l'avenir pour les patients quand on va demander des congés d'essai. Donc c'est une précaution de ma part pour lutter contre le principe de précaution, on va dire.
Alors, je m'appelle Lauriane Brunesseau, je suis pédopsychiatre, donc notamment dans la ville de Corbeil-Essonne. Je fais partie de l'association Utopsie et du collectif des 39. Par exemple, moi, pour ma part, quand j'étais encore interne en psychiatrie, j'étais passée dans un service qui, en fait, anticipait le fonctionnement de l'hôpital sur le mode du privé, en basant le fonctionnement du service sur la file active. Donc il faut comprendre que la file active, c'est le nombre total de patients ayant consulté au moins une fois dans l'année. Le chef de service disait, nous, on est comme une entreprise privée, on fonctionne tous à flux tendu. Le but de tout le monde devait être de participer à l'effort d'agrandissement de la file active. C'est-à-dire qu'il fallait que le plus grand nombre possible de patients viennent consulter au moins une fois. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il y ait 1000 patients qui viennent une fois que un patient qui vienne 1000 fois. Donc c'est-à-dire qu'il vaut mieux voir les patients le moins souvent possible pour en voir le plus possible. Donc ça modifie considérablement le soin parce que en psychiatrie, étant donné que les choses sont quand même beaucoup basées autour de la relation et de la parole, ça peut parfois être très important de passer une heure avec un patient, ça peut parfois être très important de le voir plusieurs fois dans la semaine. Et tout ça, ce n'est plus possible si la préoccupation principale, c'est augmenter la file active. Et donc moi, quand j'étais arrivée comme interne dans ce service, on m'a donné un certain nombre de conseils et on m'a donné un certain emploi du temps. On disait, mais en fait, c'est très simple. Il suffit d'écourter au maximum les consultations et de les axer principalement sur la prescription de médicaments. On me disait, en gros, tu as tes patients, tu essayes de faire la consultation la plus courte possible et surtout de bien renouveler l'ordonnance, ce qui permet de faire des consultations uniquement une fois par mois pour le renouvellement d'ordonnance. Et puis, les seules questions importantes de la consultation, c'est la recherche des effets secondaires. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez pris du poids? Est-ce que ceci, cela? C'était ça qu'on me demandait. Et donc là, effectivement, j'ai été confrontée à la question de la désobéissance. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'était impossible de travailler comme ça. C'était en désaccord complet avec ma conception du soin et la conception du soin d'une grande partie de la profession, quand même. Ce qui se passait, en fait, dans ce service, c'est que comme donc, tout le monde devait participer à l'effort de la file active, les secrétaires, du coup, mettaient des rendez-vous tout le temps très, très serrés, tous les quarts d'heure. Et dès qu'un patient s'annulait, elle mettait un nouveau rendez-vous. Déjà, un quart d'heure, c'est incroyable, quoi. On peut pas se dire énormément de choses en un quart d'heure. Donc, finalement, moi, ce que j'avais trouvé comme truc, c'est que je me notais des rendez-vous virtuels, en fait, sur l'agenda. C'est-à-dire que je notais des rendez-vous tous les quarts d'heure. Je disais... c'était des faux rendez-vous. Je savais très bien que les patients n'allaient pas venir, ce qui me permettait de garder trois quarts d'heure pour chaque patient, quoi. Et ça, ce truc-là, c'était un autre psy du service qui me l'avait donné, quand même, ce que je trouve extraordinaire. Il y a plein de choses comme ça à faire dans les services qui correspondent finalement à désobéir aux règlements mis en place et qui permettent de maintenir un soin axé sur la relation. Alors le risque qu'on prend dans ce cas-là, en tout cas, c'est, moi, la conséquence que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à être extrêmement surveillée par le chef de service, qui appelait systématiquement les lieux dans lesquels je me trouvais pour vérifier que j'étais bien là. ça instaure quand même quelque chose de particulier. Quand on arrive le matin, tout de suite il y a un coup de fil. Les infirmières reçoivent un coup de fil du chef de service qui demande si je suis bien là. Enfin voilà, donc c'est ce genre de choses comme ça que j'ai eu, une surveillance. C'est pas évident de faire des choses comme ça quand on est censé rester dans un service pour longtemps et qu'en plus on est tout seul. Si j'avais dû rester des années dans ce service, j'aurais pu faire ça que si on avait été plusieurs. Parce que au bout d'un moment, ça aurait été trop difficile.
Vous savez qu'en psychiatrie, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale, pendant qu'il y avait les nazis aux portes, que 40 000 malades mentaux mouraient de faim dans les asiles, le moment où les soignants avaient déserté les asiles parce qu'il fallait bien vivre aussi. Et à ce moment-là, à Saint-Alban, en Lozère, on a complètement détruit les murs, les quartiers d'agités, les quartiers de gâteaux et tout ça. On s'est dit, ce qui compte maintenant, ça va être de survivre. Et donc, on a mis à contribution tout le monde, que ce soit le psychiatre, que ce soit le grand schizo, le dément et tout ça, pour aller négocier avec les paysans du coin les cultures, cultiver les champs, etc. Et donc, il s'est inventé une pratique révolutionnaire de désaliénisme et de psychothérapie institutionnelle au moment de la guerre. C'est-à-dire que ce moment de subversion, de désobéissance, ça s'est fait dans un moment tragique de notre histoire collective. Et le moment qu'on vit est un moment tout aussi tragique. Si vous voulez, comme on est soumis tous au principe de précaution dans le lien social actuel, on nous dit, on se dit à soi-même, pour pas que le patient fugue, pour pas qu'il fasse un passage à l'acte, on va fermer notre pavillon à clé. C'était pas une directive de fermer les pavillons à clé. Depuis le discours de Sarkozy, les psychiatres, les soignants, de nous-mêmes, on a fermé les pavillons, nos pavillons d'hospitalisation. On les a fermés à clé. Il y a un grillage quoi, autour de l'hôpital psychiatrique. Et ben, au sein de cet hôpital psychiatrique, il y a des grillages autour du pavillon. Donc il y a des séries de grillages. Déjà que les patients sont enfermés dans l'hôpital, si en plus on les enferme dans le pavillon, vous voyez, on n'en finit plus. Et puis après on enferme le patient dans une chambre d'isolement et dans un pavillon fermé qui est lui-même enfermé dans l'hôpital. Enfin bon, voilà, et ainsi de suite. Il y a un truc vraiment très important, c'est que toutes ces normes implicites, tous ces règlements implicites qui nous disent de fermer les pavillons, d'appliquer tel ou tel protocole, il faut toujours demander de voir le papier, la loi ou le règlement qui nous oblige à faire ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de règlements qui en fait sont des règlements implicites mais qui ne sont absolument pas marqués sur le papier. Et du coup, on se met un espèce de surmoi féroce au-dessus de nous qui en fait est juste notre propre fantasme à nous. On intègre tous des discours qui se construisent comme étant naturels. C'est naturel de fermer le pavillon, c'est naturel. Tout ça, c'est des normes qu'on intègre en nous et qu'on ressent après comme naturel. À force de collaborer, à force d'avaler des couleuvres, à force de plus se remettre en cause, on perd le sens de ce qu'on fait, on perd le sens du métier. À force d'enfermer des patients et tout, on devient juste des matons, quoi. On devient des gardiens de fous. Et là, on perd vraiment le sens de notre travail. Soit souvent des fiches faxées par l'administration qui nous disent il faut appliquer tel protocole, tel truc. C'est des modes d'emploi, c'est des questionnaires. Et donc ces questionnaires, ça permettra quand il y aura des évaluateurs externes qui viendront évaluer la qualité de notre travail, ils sauront si on travaille bien ou pas en regardant ces fiches. Pas en parlant aux patients en disant comment vous vous sentez soigné ici, pas du tout. C'est en regardant les fiches d'évaluation. Il y a des visites tous les 2 ans, mais c'est au quotidien qu'on a des injonctions au protocole. Le truc, quand on reçoit ces protocoles, c'est de ne pas y prêter attention. Du coup, ça, si vous voulez, faut pas trop le dire, mais la dernière visite, On a mis en place, parce qu'il faut un certain nombre de classeurs avec marqué, montrer que on a plein de protocoles, qu'on a plein de documentation, etc. Donc nos documentations professionnelles là, qui sont dans des classeurs, on avait retiré les classeurs et on avait marqué sur la tranche visible du classeur évaluation des pratiques professionnelles, protocole de machin, protocole de trucs et tout. Donc on avait rempli tout un mur d'un bureau d'un médecin avec marqué qualité des soins en gros sur la tranche, commission de lutte contre les infections nosocomiales en gros et tout. Bon, il n'y avait rien dans les classeurs, il n'y avait strictement rien. Donc voilà, ça c'était amusant. Et puis on avait créé un certain nombre de feuilles qu'on avait placardées partout dans le service. Séance d'évaluation des pratiques professionnelles une fois par mois dans le service et tout. Mais bon, c'était pour aller dans ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire présenter ce qu'on attend de nous, mais en même temps, on ne fait absolument pas ça. Au quotidien, on fait vraiment à l'inverse de tous ces trucs-là. Et c'est la seule condition pour pouvoir travailler réellement. Moi, je pense que toutes ces directives, elles sont faites au nom du bien. C'est pour ça que tout le monde y collabore autant. C'est qu'on se dit, ça va être plus facile, plus simple de codifier les pratiques. Ça va être plus simple de mettre en place un management efficace, si on reprend les termes qu'il y a dans les entreprises, mais qui arrivent aussi à l'hôpital. Parce qu'on collabore tous peu ou prou à ces discours-là. On se dit, oui, c'est bien, comme ça, la machine marchera mieux, le système marchera mieux. Mais on ne s'aperçoit pas qu'en faisant ça, on cède sur notre liberté, on cède sur nos principes démocratiques, éthiques, républicains, voilà.
Donc les protocoles, ils sont créés aussi pour pouvoir déresponsabiliser les soignants si jamais il y a un problème. On nous raconte parfois des histoires, par exemple... Tel patient s'est pendu dans sa chambre. On nous a raconté ça il n'y a pas très longtemps. Et le directeur de l'hôpital a dit « Ouf, le protocole a été bien respecté ». C'est à ça que ça sert aussi, les protocoles. Dans cette ambiance de judiciarisation dans laquelle on est, tant que le protocole a été bien respecté, les gens peuvent se laver les mains, en fait. Ça va dans le sens de la gestion du service public sur le mode du privé. Le but n'est pas la qualité des soins, malgré que le mot « qualité » soit perpétuellement employé.
Les cadres administratifs, il se peut pas qu'ils viennent vous rendre visite par surprise un jour pour vous contrôler ?
Ouais, mais si vous voulez, je crois que les gens, ils sont pas bêtes non plus. Quand on leur explique qu'on a mis en place cet outil-là parce que ça répondait à un besoin réel qu'on s'est aperçu dans la pratique, on discute un peu avec les gens en leur disant « écoutez, vous voyez, on a mis en place ce classeur parce que on s'est aperçu qu'avant, c'était plus lu et tout ça. » Et les gens, ils comprennent. Ils se disent « on comprend, on dira rien. » À partir du moment où on leur explique nos soucis qu'on a dans les pratiques, les gens, ils comprennent. Il faut leur expliquer de manière assez sympa et puis les faire venir dans le pavillon. Mais voilà, les gens, ils sont pas crétins aussi. Et je pense que c'est ça aussi la désobéissance, c'est vraiment faire tache d'huile, c'est-à-dire qu'avoir une conviction désirante forte, et puis en parler au fur et à mesure, et les gens, ils comprennent, et du coup, ils vont se rallier à ça, et ils vont nous donner des tuyaux aussi, en disant, écoutez, là, on ferme les yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le noter, là, dans notre petite fiche, le truc, et puis, on revient dans deux jours, vous mettez tout en place, et nous, on dit que ça a été, que vous avez respecté tous les protocoles. Moi, je travaille dans des banlieues difficiles, par exemple à Grigny. On a un certain nombre de patients qui sont clandestins. Enfin, ils sont sans papier, avec des histoires la plupart du temps traumatiques. Ils ont fui des pays en guerre. Ils arrivent complètement brisés. En plus, on leur demande de justifier leur maltraitance, de revenir 10 fois à la préfecture, 15 fois, 100 fois. Ça les rend réellement fous. Et donc, en préfecture, on nous demande de faire des certificats pour dire quels sont leurs troubles. Et dans ces certificats, là, j'exagère les troubles. Je dis que les patients sont très suicidaires, qui délirent vraiment beaucoup, qui nécessitent des soins, sinon ils vont se mettre en danger, eux et les autres, etc. J'exagère volontairement. Parce que c'est que comme ça qu'on leur permettra d'avoir une autorisation de soins. Donc ça, c'est à la fois une position de médecin, de psychiatre, mais c'est aussi une position de citoyen. C'est-à-dire ne pas accepter la banalisation du mal, quoi. Donc voilà, par exemple, au sein du collectif des 39, on organise un peu la contrebande de la psychiatrie, quoi. Là, il y a une loi dégueulasse qui est en train d'arriver, hein, pour les patients, les soi-disant les plus fous, mais qui va se répandre à toute la société. Ce projet de loi, c'est de dire qu'on va pouvoir créer des soins sans consentement en ambulatoire, où les patients seront sommés de prendre leurs médicaments, et ça crée un espace de défiance entre les soignants et les patients. On sera obligé de dire au directeur de l'hôpital, qui pourra le dire au préfet, que le patient n'est pas venu en consultation. Et donc à partir de ce moment-là, la sonnette d'alarme sera tirée, et donc le patient, on ira le chercher avec des brigades de super soignants musclés et des flics au domicile pour le ramener à l'hôpital ou pour l'obliger à venir au CMP pour prendre ses traitements. Donc à partir de là, comment avoir confiance en son thérapeute et en son psychiatre si dès que vous lui dites un petit truc, bah, il peut vous envoyer les gros bras pour se faire soigner. Bon, ça c'est la première chose. L'autre chose, pour augmenter les droits, on va faire rentrer le juge dans le dispositif. C'est-à-dire que maintenant, toutes les décisions de privation de liberté, donc de soins sous contrainte, ça devra passer devant un juge. Les hôpitaux devront aménager une salle pour permettre la téléaudience. C'est-à-dire que le juge sera dans sa juridiction, dans son tribunal, il sera devant une webcam, il verra le patient devant une autre webcam, enfin voilà, il verra l'image du patient qui est à l'hôpital devant sa webcam, et il devra juger sur cette image si le patient est apte ou pas à être libéré de ses soins contraints. Donc il y a tout ça dans ce projet de loi qui sera inapplicable, c'est clair que nous ne l'appliquerons pas. On va organiser la contrebande et la subversion, parce que c'est une époque de guerre sociale. C'est dans ces moments-là où se réinventent toujours des choses créatrices et subversives. Parce que moi, je veux travailler comme ça, bosser comme ça avec les patients, et si on a une certaine posture éthique, on ne peut pas ne pas désobéir. On se heurte à des résistances. Alors, la plupart des résistances, elles s'expriment en disant « Mais vous êtes des idéalistes de toute façon, vous êtes des romantiques, il faut s'adapter à l'époque actuelle, maintenant, il faut être moderne, il faut être dans l'innovation, votre truc, c'est vraiment dépassé. Vous êtes des gauchistes, de toute façon, des doux rêveurs. » Bon, en plus, c'est même pas vrai qu'on est des gauchistes. On est juste des démocrates, quoi, des gens qui tiennent à la démocratie. Cette question-là de comment partager le quotidien entre les citoyens, quoi. Voilà, et comment accueillir l'étrangeté, l'autre, dans notre lien social. Bon, voilà. Donc, ces résistances, on les a au quotidien. On discute, on essaye de créer de la dispute professionnelle qui porte non pas sur des conflits de personnes, mais sur le sens du métier. Hein.
Vous pensez voter pour qui en 2012 ?
Alors ça, c'est une grande question pour moi. Parce que je crois pas que le Parti Socialiste offre autre chose que ce qu'ils imaginent être une bonne gestion. Et je pense que tant qu'on reste dans le discours gestionnaire, on reste dans l'idée qu'il s'agirait de déléguer les services publics au privé ou de transformer les services publics avec les méthodes du privé. Alors ça me paraît justement complètement destructeur du désir, voilà, pour les personnes qui travaillent dans le service public. Donc je sais pas pour qui voter, en fait. Désobéir, ça vient dire je ne crois pas que ce qu'on me demande de faire soit la vérité de ce qu'il faut faire. Je pense que chacun de nous a un rapport particulier à la norme, et notamment à la norme sociale. Et je pense que c'est surtout ça, en fait, qui joue dans le fait de désobéir ou de ne pas désobéir. Hein, quand on est petit, on nous parle de la vie, on nous explique comment ça doit se passer. Ce qu'on nous présente comme un ajustement très serré entre ce qui est dit et la réalité. Moi, je pense que j'ai été confrontée très vite au fait qu'il y avait un désajustement. C'est-à-dire que la réalité n'était pas épinglée de manière si serrée par ce qui était dit. Il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie qui nous font prendre conscience à quel point toutes ces choses qu'on nous apprend, règles, normes, etc., sont quand même principalement un discours. Ça n'est pas complètement la réalité. C'est une façon de voir la réalité.
Vous vous souvenez la première fois où vous en avez pris conscience ?
Ben, je pense que c'est l'entrée à l'école. Oh, bah, ce qui se passait pour moi, c'est très simple, hein, c'est que j'avais une grande sœur qui avait un an de plus que moi, et on pourrait dire qu'elle n'était pas normale. Elle n'était pas normale parce qu'elle était trisomique. Donc on arrivait dans la même école maternelle toutes les deux ensemble, et je me rappelle que souvent, on venait me voir et on me disait « ça doit quand même être vachement dur, quand j'étais petite, hein, ça doit quand même être vachement dur d'avoir une sœur comme ça ». Et moi, je pensais toujours dans ma tête, non, ce qui est vachement dur, c'est qu'on me pose des questions comme ça. Parce que vivre avec ma sœur, c'était ni plus dur ni plus facile que qu'autre chose. On s'entendait super bien, des fois on se disputait. Ce qui était dur, c'est des questions comme ça, qui montrent la force des préjugés. Et donc, la manière dont les gens, les maîtresses, les autres élèves étaient avec moi, était différente que la manière dont les gens, maîtresses, autres élèves étaient avec elle. Et ça, très vite, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un monde codé, normé. Et moi, en tout cas, ce que je vivais dans ma vie personnelle me montrait que c'était pas ma réalité. Et alors après, forcément, je pense que ça a énormément influencé ma manière de vivre les règles, les choses dites comme étant la vérité, les discours normatifs en règle générale, et puis plus tard... Voilà, les protocoles, les règlements, les réponses toutes faites, les modes d'emploi. Et je pense que chacun de nous a un rapport à la norme très particulier et donc à l'obéissance et à la désobéissance plus tard. Parce que la vérité peut pas être donnée de l'extérieur, voilà. La vérité peut pas être donnée toute faite par une instance extérieure.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, désobéir en milieu psychiatrique. Un reportage de Pauline Mocor réalisé par Nicolas Berger, au mixage Yann Malichevski, l'attaché de production. C'est Sandrine Chaperon. Merci aux deux psychiatres Yves Gigou et Paul Macheteau, à Patrick Chemla et au collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. Vos réactions, vos suggestions, vos idées, vos témoignages, vos mails, vos commentaires, tout ce que vous voulez, c'est sur notre site internet franceculture.com à la rubrique Les Pieds sur Terre. C'est là que vous pouvez podcaster notre émission pendant une semaine et la réécouter autant de fois que vous voulez pendant au moins un an. Demain, dans Les Pieds sur Terre, nous partons dans un tout autre monde puisque nous serons à Neuilly et nous assisterons à une gold party.